Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo, à la fois sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Je commence par vous rappeler nos horaires de diffusion. C'est le mardi après-midi à 15h, le samedi matin à 7h30 et la nuit de dimanche à lundi à minuit. Micro Rebelle Hebdo, c'est un magazine qui explore l'actualité sociale et politique, un magazine qui s'inscrit dans les luttes pour la mise en œuvre d'une nouvelle société, un magazine à l'écoute des mouvements sociaux dans le bassin minier et au-delà. Chaque semaine, nous vous proposons notre agenda social et culturel, des reportages d'actualité et de la musique libre. Sans attendre, voici notre agenda social et culturel du samedi 30 septembre au samedi 7 octobre. Cette semaine, au cinéma Les Étoiles de Bruet-Labissière, Petit Paysan, un film d'Hubert Charvel qui nous permet d'appréhender le monde paysan. Il nous raconte l'histoire de Pierre, la trentaine, qui est éleveur de vaches laitières, dont la vie s'organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l'exploitation. Alors que les premiers cas d'une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l'une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches, mais il n'a rien d'autre et ira jusqu'au bout pour les sauver. C'est donc au cinéma Les Étoiles de Bruet-Labissière, samedi 30 à 16h30 et à 20h30, dimanche 1er octobre à 20h30, lundi 2 à 14h30 et mardi 3 à 20h30.
Le dimanche 1er octobre, le collectif citoyen de Bully-les-Mines vous invite à une visite du Familistère de Guise. Alors on va peut-être donner quelques points de repère sur le Familistère de Guise. Jean-Baptiste André Godin, fondateur de l'usine de Poêle et fourriériste convaincu, souhaitait offrir les équivalents de la richesse à tous. En collaboration avec les employés de l'usine, il bâtit, à partir de 1860, un palais social où s'expérimenta pendant un siècle un projet de société original. Le Familistère se compose de 5 pavillons d'habitation et d'équipements annexes, comme le lavoir-piscine, le jardin d'agrément, l'école ou encore le théâtre. Jean-Baptiste André Godin est considéré aujourd'hui comme un des pères fondateurs de l'économie sociale et solidaire. Pour en savoir plus sur cette histoire, on peut se référer au site internet www.familistère.com. Alors donc cette visite le 1er octobre, à l'initiative du collectif citoyen de Bully-les-Mines, est organisée avec un départ à 9h de Bully-les-Mines, rendez-vous à 8h45 devant la mairie pour organiser le covoiturage. Il y a 128 km, ce qui fait à peu près 1h30 de trajet, et la visite guidée sera mise en œuvre à partir de 11h. Le midi, le repas sera pris en commun sous la forme d'une auberge espagnole. Chacun amène et met en commun son pique-nique. Et l'après-midi, la visite pourra se poursuivre de manière libre et non encadrée. Le retour sur Bully-les-Mines est prévu au plus tard vers 18h. Le tarif de la visite est de 9 € par personne et on peut s'inscrire par courrier électronique à l'adresse collectifcitoyenbully@gmail.com.
Toujours organisé par le collectif citoyen de Bully-les-Mines, nous sommes invités à un ciné-débat autour du film « Moi, Daniel Bleck ». C'est le mardi 3 octobre à 19h. Ce film, qui a été réalisé par Ken Loach, a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2016. Il nous raconte l'histoire de Daniel Bleck qui, pour la première fois de sa vie, alors que c'est un menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l'aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui a interdit de travailler, il se voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au Job Center, Daniel va croiser la route de Katie, mère célibataire de 2 enfants qui a été contrainte d'accepter un logement à 450 km de sa ville natale pour ne pas être placée en foyer d'accueil. Pris tous les deux dans les filets des aberrations administratives de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, Daniel et Katie vont tenter de s'entraider. C'est donc à Bully-les-Mines, le mardi 3 octobre à 19h, ciné-débat organisé par le collectif citoyen de Bully. L'entrée est gratuite, mais vous pouvez réserver à l'adresse collectifcitoyenbully@gmail.com. Le film et le débat qui suit ont lieu à l'espace François Mitterrand, rue Roger Salengro à Bully-les-Mines.
Toujours le mardi 3 octobre et toujours du cinéma. Il s'agit cette fois-ci du film Notre pain quotidien et c'est au cinéma Les Étoiles de Bruet-Labussière à 20h30. Notre pain quotidien, c'est un documentaire autrichien. Pendant 2 ans, le réalisateur Nikolaus Gerhalter a placé sa caméra au cœur des plus grands groupes européens agricoles, nous donnant accès à des zones inaccessibles. Il a filmé les employés, les lieux et les différents processus de production pour réaliser un documentaire cinéma qui interroge et implique intimement chaque spectateur. C'est donc mardi 3 octobre à 20h30 au cinéma Les Étoiles de Bruet-Labussière.
À Liévin maintenant, c'est à une réflexion collective que nous sommes invités par CLIS21 dans le cadre de ces débats Penser Ensemble sur la thématique du logiciel libre dans les arts numériques. C'est au LAG, le lieu autogéré de Liévin, 23 avenue Jean Jaurès, le vendredi 6 octobre à 19h. Et CLIS21 nous invite à la découverte de Metalu.net, un chantier créatif numérique. Au sein du collectif d'artistes Metalu à Chahuté, la plateforme Metalu.net a fait le choix d'utiliser et développer des logiciels libres dans un souci éthique de partage et de libre accès à l'information. Ce débat Penser Ensemble est l'occasion de découvrir ces outils dédiés aux arts numériques et comprendre en quoi la philosophie du projet favorise la solidarité sociale et la coopération entre individus. Eh bien, je vous propose maintenant une première pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Comme toujours sur Micro Rebelle, il s'agit de musique libre et aujourd'hui, je vous invite à découvrir Me for Queen. C'est une pianiste londonienne. Son piano est discret, mais c'est un véritable fil conducteur. Les arrangements sont subtilement dosés et aériens et elle chante avec une touchante sincérité. Elle a du talent au bout des doigts et de l'émotion à transmettre. Le morceau qui suit s'intitule Leaves et il est extrait de l'album Who I Am and What I'm For.
Wish that I could say it was a warm summer day, but summer closed for business much too soon. We drove up to the spot where we remember then, and I wonder, does it feel like coming home? Hands soft as silk, lightly stitched onto the arms, we link in each side of you. Feet stumble frailer than the leaves that crumble under as we move.
We brushed and brushed and brushed, but still the leaves came in. So many words to say, but still the days draw in. When you go, you turn the leaves to gold. Stretch the mind back to the time of warm summer days, pushing stubborn donkeys round a field. You pulled your way through darker days when time stood still. All these mysteries that lay beyond my years. Hands softer silk, lightly stitched onto the arms, we link in each side of you. Stumble frailer than the leaves that crumble under us. We brushed and brushed and brushed, but still the leaves came in. This sudden rush of love can't stop the days drawing in. When you go, brushed and brushed and brushed, but still the leaves came in. I know I've missed so much, so I'll just drink this in. And when you go, you turn the leaves to gold.
C'est maintenant l'heure de notre rubrique actualité sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Aujourd'hui, nous revenons sur quelques actualités qui se sont déroulées la semaine dernière. Tout d'abord, Microrebelle était présente au LAG vendredi dernier à l'occasion du concert de rentrée du LAG avec « On a lâché les chiens ». Pour l'occasion, le LAG s'était refait une beauté et nous avons tendu notre micro à Benoît qui fait partie du groupe concert au LAG.
Alors, au LAG cet été, il y a eu différents travaux qui ont été faits. Tout d'abord, il y a la vitrine qui a été obstruée par des rideaux pour pouvoir faire des projections plus facilement dans le sombre. Donc il y a maintenant deux épaisseurs de rideaux. On a aussi installé, donc dans la pièce où il y a des concerts ou des pièces de théâtre, on a installé des spots tout le tour, donc des spots blancs d'où on peut varier l'intensité, et aussi des spots couleurs où on peut s'amuser avec, un peu faire un peu mode discothèque, faire un peu plein. On peut s'amuser pas mal quoi, avec des spots de toutes les couleurs, et surtout une super boule à facettes qui est bien sympa pour les concerts qui risquent de bien bouger. Donc l'objectif c'était d'éclairer un peu les concerts avec des lumières sympas, mais aussi pour pas que pour les concerts, aussi pour les pièces de théâtre qui sont quand même l'éclairage au néon c'est peut-être pas super pour une pièce de théâtre, donc si on peut s'amuser à mettre des couleurs plus chaudes, c'est quand même bien mieux. Alors les différents concerts, là ce soir, c'est donc aujourd'hui le 22 septembre, on lâche les chiens. Donc ils se caractérisent comme du dark folk, donc c'est... Ouais comme ça, voilà, il est là-bas, il dit ouais comme ça. Donc on découvrira ce soir ce qu'il appelle dark folk. Le 21 octobre, on a le Bazar Anana. Donc c'est des filles qui font de la chanson française, qui swingent pas mal. Elles sont déjà venues au LAG il y a quelques années. Et là, elles ont fait un nouveau spectacle, et elles sont de retour, et il paraît qu'elles sont pas contentes. Hein ? Le 24 novembre, on a deux groupes qui viennent. Donc on a White Mouse, qui fait un peu du croisé de l'indie rock, et du classic rock US. Voilà, ils ont leur petite composition, c'est un petit groupe d'Arras. Et on a aussi Spoonman, qui... Alors avant, ils faisaient plus du hard rock, et maintenant, ils... Il fait ses petites mélodies sympas. Donc ça, c'est le 24 novembre, White Moss et Spoonman. On est aussi en contact avec différents groupes. On a un gars qui fait... on a un one-man band qui va venir mois de mars, mois d'avril. Voilà, encore des dates à définir. On a le collectif Musix qui va encore venir au mois de janvier ou février. Voilà, on a plein d'autres groupes avec qui on est en contact. Ils sont prévus mois de décembre, janvier, février. Plein de groupes, plein. Et il faut aller voir sur lelag.fr, sur l'agenda, et vous aurez tous les groupes.
Alors toujours dans l'actualité, hein, chaque semaine on essaye sur Micro Rebelle de vous tenir informé des initiatives contre la mise en place des compteurs Linky, hein, notamment dans le bassin minier. Alors chaque semaine on se rend compte qu'effectivement la résistance continue à s'organiser. Par exemple la semaine dernière, hein, vendredi dernier, il s'est tenu une réunion publique à Grenay avec une assistance nombreuse et combative. Et la ville de Grenay s'apprête à accompagner ses habitantes et ses habitants, hein, à refuser le Linky dans un contexte qui n'est pas facile, hein, puisque à Grenay, beaucoup de compteurs sont situés à l'extérieur. Et on sait que les sous-traitants de Enedis ne prennent pas de gants, hein, pour installer, y compris violemment, les compteurs sans l'avis des personnes concernées. Voilà, donc une belle bagarre qui se met en place à Grenay. Tandis qu'à Angres, hein, on vous en a déjà parlé, on a appris que Enedis, hein, le successeur de ERDF, hein, qui déploie justement ses compteurs Linky dans toute la France, Enedis n'est vraiment pas content de ce qui se met en place à Angres, hein, où une bonne partie de la population s'est clairement prononcée contre les compteurs. Et donc Enedis a décidé de mettre sur pied des permanences, mais des permanences très encadrées, hein. Il y aura entre 10 et 15 personnes à chaque permanence. Eh bien, en face de ça, entre guillemets, hein, le collectif anti-Linky de Angres, hein, continue ses distributions de tracts. Hein, il y a une pétition également qui circule. Et cette semaine, bah, ce sont des affichages qui ont démarré dans la commune, dans la ville. Bref, dans le bassin minier, on peut estimer que ça n'est qu'un début. La résistance continue à se mettre en place. Ça ne plaît pas à Enedis, mais... on peut estimer que ce n'est que le début des initiatives pour refuser ce compteur entre guillemets intelligent.
Une autre actualité importante de la semaine écoulée, c'est l'expulsion des exilés du camp de Noranfonte et la démolition totale de leur camp, au mépris des droits fondamentaux des hommes, des femmes et des enfants qui y vivaient. Une expulsion, quelle qu'elle soit, est toujours un acte extrêmement violent pour les gens qui la vivent. Celle-ci a été organisée par la mairie et la préfecture en moins de 48 heures et en passant outre un recours en référé déposé par l'avocate du collectif Terre d'Errance. On écoute Dominique qui nous retrace l'histoire du camp jusqu'à cette expulsion inique.
Et donc les exilés sur Noranfonte, qui est une petite ville, village même du Pas-de-Calais entre Lillers et Aire-sur-la-Lys, des exilés, il y en a depuis les fins des années 90 qui s'arrêtent là, qui passent là, qui stationnent là, parce qu'il y a une aire d'autoroute qui est tout près, et de là, ils pouvaient essayer à partir de l'aire d'autoroute de monter dans des camions et aller en Angleterre, puisque les exilés qui passent par Noranfonte, ce ne sont pas des exilés qui souhaitent demander l'asile en France, ce sont des exilés qui souhaitent gagner l'Angleterre et demander l'asile en Angleterre. Donc depuis les fins des années 90, on a vu passer beaucoup d'exilés, notamment au départ des Kosovars, puis plutôt dans les milieux des années 2000, des personnes qui venaient de l'Érythrée et sur Noranfonte, donc principalement de l'Érythrée, l'Éthiopie et le Soudan. Ils étaient au départ dans des fossés, sous des bosquets, un peu comme ce qui se passe actuellement à Calais depuis la destruction de la jungle de Calais. Et en 2008, les bénévoles qui déjà leur apportaient une aide régulièrement se créent en association pour pouvoir apporter une aide plus structurée au niveau de tous ces exilés qui passaient et qui traversaient Noranfonte. En 2012, il y a des élections municipales qui portent un élu que nous on appelle hospitalier à la tête de la commune et qui là décide parce qu'on avait parce que ces exilés étaient complètement poursuivis de leur offrir un terrain un communal un peu en dehors du village dans les champs, un terrain qui appartenait à la commune pour qu'ils puissent se poser et je dirais entre guillemets poser leurs valises. Donc en 2012 il y a un camp qui se... Enfin, à partir de 2008 plutôt, il y a un camp qui se construit. Et en 2012, après la destruction de ce camp, le maire, donc je reprends un peu, je me suis un peu cafouillée dans mes explications. Donc c'est en 2012 que le maire Marc Boulnois, maire hospitalier, décide d'offrir un terrain, un endroit pour construire quelque chose d'un peu plus solide et organisé pour ces exilés. L'association qui s'est créée en 2008 qui s'appelle Terre d'errance continue et poursuit son appui auprès de ces exilés qui à cette époque-là sont plutôt autour de la quarantaine et qui quotidiennement apportent nourriture, douche, les conduits aux douches, s'organisent pour la santé, enfin pour soigner les bobos, les conduire à l'hôpital, etc. etc. Et en 2015, il y a des élections qui bouleversent un peu le paysage puisque le maire hospitalier est battu. Et c'est donc un maire qui était hostile aux migrants qui arrive à la tête de la commune et qui va n'avoir de cesse que de pouvoir faire en sorte que ce camp disparaisse des yeux d'ailleurs il n'est pas très visible mais en tout cas disparaisse de la ville de Noranfonte et il va porter plainte avec les propriétaires privés d'une partie du terrain où sont installés les migrants. Il va porter plainte auprès du tribunal demandant la destruction du camp. Entre deux, c'est vrai qu'il y avait eu, parce que la vie de Terre d'errance et des exilés n'est pas un long fleuve tranquille, puisque en 2015, il y avait eu un feu qui avait détruit en partie le camp et aussi une très très forte vague de solidarité qui avait permis la reconstruction de ce camp, notamment avec l'appui, je dirais, emblématique de HK et les Saltimbanques qui étaient venus jouer sur le camp de Noranfonte. Donc on a pu reconstruire à cette époque-là, malgré l'interdiction de reconstruire d'ailleurs, mais on a quand même reconstruit, on a eu des centaines de constructeurs, on va dire, ou de, je ne sais pas comment on peut dire, de gens qui ont participé à la construction de deux nouveaux baraquements sur le camp de Noranfonte. Mais bon, de toute façon, le maire a décidé, le maire et les préfets, la sous-préfecture, enfin bref, tout le monde est hostile à ce camp, comme ils étaient aussi à Calais, le maire, la mairesse, on va dire, et les pouvoirs public hostile à la jungle de Calais. Bon, on a vu aussi arriver un flux important de migrants après les révolutions arabes, etc. On a vu arriver un flux important de migrants à Calais et aussi par ailleurs à Noranfonte, puisqu'en 2040 on est passé à un moment donné à 300 exilés, bon, ce qui était quand même compliqué aussi à gérer, mais qui était toujours assumé par l'ensemble des associations qui intervenaient sur le camp. Et notamment toujours Terre d'errance qui servait un peu de coordination de l'ensemble de ces associations. Donc les deux plaintes au tribunal du maire n'ont pas abouti puisque les exilés, puisque ce sont les exilés qui se portent, qui demandent le recours d'avocats et donc notamment là d'une avocate qui s'appelle Julie Bonnier. La mairie donc a toujours continué sa volonté de voir détruire le camp et donc le samedi matin à 7h du matin a posé un arrêté dicté par la préfecture puisque dans un des articles de l'arrêté, il est dit que la préfecture demande au maire de faire son pouvoir de police. Ça veut dire, donc, piloté par la préfecture, l'arrêté est posé sur les murs des baraques du camp de Noranfonte, laissant aux exilés 48 heures pour quitter le camp de Noranfonte. Donc à partir de samedi matin, 7h. Bon, nous avons bien sûr les bénévoles de Terre d'Errance été mis au courant par les exilés, parce que les exilés, on les avait informés de ce qui pouvait arriver. Donc ils nous ont tout de suite informés, on s'est réunis en urgence et on a demandé à l'avocate de faire un référé suspension auprès du tribunal administratif, ce qui a été fait et envoyé au tribunal administratif le samedi soir avec copie au sous-préfet, préfet et maire de Noranfonte. Nous étions plusieurs bénévoles, on était une vingtaine lundi matin vers 6h30 pour voir ce qui allait se passer puisque les 48 heures se terminaient lundi à 7h du matin et certains même ont dormi sur le camp pour voir aussi être prêts à voir ce qui se passait également. Et puis certains ont démonté d'ailleurs la mosquée qui était sur le camp pour au moins que cette mosquée ne soit pas détruite avec les bulldozers éventuellement. Et à partir de 7h du matin pile, c'est-à-dire 48 heures pile après la position de l'arrêté, on a vu arriver une centaine de gendarmes sur le camp et le sous-préfet et le maire de Noranfonte et la direction de la cohésion sociale et la FAP, donc la police aux frontières, et l'OFI, donc tout ce qui concerne l'immigration. Tout ce monde-là, ça faisait je ne sais pas combien de personnes, sont arrivés sur le camp pour faire partir les exilés et ensuite faire démolir le camp. Donc là, deux bus attendaient les exilés avec la direction de la cohésion sociale, l'OFI, pour pouvoir les conduire. Alors, on ne savait pas au départ où ils seraient conduits. Donc ces deux bus ont conduit les 85 exilés qui étaient encore sur le camp au centre d'accueil et d'examen des situations, je crois, à Belleval, tout près de Saint-Paul, et les deux bus sont partis là-bas et puis ils se sont rendus compte en arrivant là-bas qu'il n'y avait pas assez de place à Belleval, et donc une partie a été conduite en ayant fait tout ce cheminement dans un hôtel à Arras, où ils sont toujours aussi là hébergés. Ils sont à peu près 25 dans cet hôtel et ils prennent leur repas au foyer de jeunes travailleurs d'Arras. Ils ont plus de 50 minutes de trajet à faire à pied pour pouvoir aller prendre leur repas le midi et le soir. Donc là, on est nous révoltés, bien sûr, l'association Terre d'Errance et toutes les associations partenaires qui œuvraient sur le camp sont révoltés de la façon dont ça s'est fait, c'est-à-dire un arrêté inique qui de toute façon a fait fi des jugements précédents et qui, manu militari, on va dire, détruit le camp, puisqu'il y a maintenant le camp est complètement détruit. Hein, le sous-préfet nous a dit qu'il nettoyait le camp, donc c'est vraiment du nettoyage, c'est-à-dire qu'on arrive avec des bennes et des bulles, enfin pas un bulle, mais enfin des grues, des machins qui démontent. Donc il n'y a plus rien, à part des gravats encore peut-être sur le camp, mais les exilés sont éparpillés là actuellement entre Belleval et Arras. Certains ont déjà quitté le centre de Belleval et essayent de, pour l'instant, de rejoindre les endroits où il y a encore des exilés, sachant que pour l'instant, à Noranfonte, ça va être très très compliqué. Mais nous, on pense qu'ils vont revenir dans le coin, qu'ils vont essayer de toute façon de repasser sur et d'essayer de partir en Angleterre à partir de l'aire d'autoroute de Noranfonte, qui a été, il faut le savoir aussi, comme toutes les autoroutes à partir de Angres. Celle d'Angres est toujours ouverte, mais toutes les autres sont fermées, notamment les aires de repos, on ne peut pas stationner. Et là, c'était une aire à Noranfonte où il y a de l'essence. Les camions ont ordre de ne prendre que de l'essence et partir tout de suite et ne peuvent pas non plus stationner. Donc il y a vraiment, vraiment un harcèlement permanent des forces de police pour que de gendarmerie pour que les migrants ne puissent pas monter bien sûr dans les camions. Ils sont harcelés partout, quand ils montent une tente parce que ils ont pu récupérer une tente, des sacs de couchage, ils sont gazés entre guillemets dans ces tentes. On leur prend leurs affaires, on leur prend le sac de couchage, on sait que sur Calais, on les a même empêchés de se nourrir, même empêchés de se doucher, empêchés de boire. Sur Noranfonte, on ne sait pas comment ça va se passer, mais voilà, ça risque d'être très très difficile pour tous ces exilés qui, de toute façon, ne souhaitent pas rester en France, mais souhaitent aller en Angleterre. Donc en CAO, en CAES, là, donc, où ils sont actuellement, la proposition qui leur est faite est de faire une demande d'asile en préfecture dans la semaine, hein, c'est-à-dire de se décider dans la semaine s'ils font une demande d'asile, et on leur prend leurs empreintes. Ça veut dire qu'après, ils ne pourront plus aller en Angleterre, puisqu'ils auront leurs empreintes en France. Ou alors, ceux qui ont déjà des empreintes en Italie ou en Espagne ou ailleurs, eh bien, ils seront reconduits dans ces pays. Ou pour les Soudanais qui, en Belgique, il faut le savoir aussi, sont maintenant vraiment pourchassés. C'est-à-dire que le Soudan a envoyé des forces administratives pour aller contrôler les Soudanais en Belgique et les emmener de force, les réemmener de force au Soudan. C'est-à-dire que le gouvernement belge a passé des accords avec le gouvernement soudanais pour reconduire de façon express les Soudanais actuellement qui sont en Belgique au Soudan, sachant tout ce qui se passe au Soudan. Voilà, donc c'est une situation dramatique pour tous ces exilés qui aujourd'hui n'ont la paix nulle part, alors que à Noirmoutier quand même c'était un endroit où ils pouvaient se poser, où ils étaient accompagnés, où ils étaient ensemble, où ils pouvaient pendant un certain temps retrouver un peu de vie paisible, même si elle était bien sûr contraire aux droits humains, mais en tout cas elle leur permettait d'avoir un temps je pense bénéfique pour eux pour pouvoir continuer leur trajet de loin pour aller jusqu'à ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire l'Angleterre. Donc on dénonce aussi les réponses qui sont faites à ces exilés qui ne sont pas du tout adaptées à ce que ils souhaitent. On dénonce que la France fasse la frontière de l'Angleterre en France. On dénonce qu'on ne puisse pas permettre à ces exilés de rejoindre, notamment pour beaucoup d'entre eux, leur famille ou leurs amis déjà en Angleterre, parler la langue qu'ils connaissent, puisqu'ils ne connaissent pas le français, mais souvent ils connaissent l'anglais. Bref, de vivre une vie un peu normal après tout le chemin souvent excessivement difficile qu'ils ont pu faire, et surtout après avoir quitté des pays soit en guerre soit en dictature. Donc le matin, effectivement, lundi matin, beaucoup de bénévoles étaient déjà sur le camp, donc a pu assister et soutenir quand même les exilés dans cette difficulté. Puis nous avions prévu, et on a organisé ce qu'on appelle un cercle du silence, bon, un peu bruyant quand même, mais bon, un cercle du silence sur un rond-point où il y avait énormément de monde qui passe, donc à Lillers, juste à l'entrée, vers l'entrée de Noirmoutier. Bon, là, il y a eu plus d'une centaine de militants, de bénévoles qui sont venus avec le renfort d'associations calaisiennes, enfin de renfort d'associations qui s'occupent également d'exilés ailleurs. Nous avons distribué des tracts devant la sous-préfecture ce vendredi. Là, nous avons reçu, de toute façon, ça c'est complètement incroyable, l'avis du tribunal administratif disant qu'il y avait une audience le 26 septembre pour examiner le référé suspension, qui n'a rien suspendu du tout, puisque le camp est détruit. Donc la question est de savoir, avec l'avocate, si nous avons intérêt ou non à aller au tribunal administratif le 26 septembre, parce que, bon, de toute façon, l'objet même du référé suspensif, il est détruit, donc c'est vrai que ça risque d'être nul et non advenu, mais enfin bon, voilà, c'était une question. Et puis on continue de toute façon notre action, on va continuer une action de maraude pour voir si des exilés reviennent. On s'est organisé aussi pour offrir un hébergement pour ceux qui le souhaiteraient temporaire, pour organiser aussi l'appui auprès de ces exilés si nécessaire. On a même été ouvert les douches vendredi après-midi en se disant que peut-être certains reviendraient aux douches, mais bon, je pense un peu trop tôt par rapport à ce qui s'est passé lundi. Mais bon, là, dans l'aspect matériel, on va continuer à être présent parce qu'on sait qu'il y en a qui vont revenir. Et sur l'aspect de l'association Terre d'Errance, ça a aussi d'autres vocations, des vocations d'information, de sensibilisation, d'éducation, j'irais à ce que sont les migrations aujourd'hui. Et donc, ce travail-là, on le poursuit. Et vendredi après-midi, il y avait des bénévoles de Terre d'Errance qui intervenaient encore dans des lycées, notamment même à Valenciennes. On intervient et on continue d'intervenir partout où on nous le demande pour expliquer ce qui se passe au niveau des migrations qui vont peut-être encore s'intensifier. On n'a pas encore parlé des migrations peut-être climatiques qui arriveront également. Donc ce travail-là de sensibilisation, d'éducation, de lutte et de volonté de faire avancer les réponses et en tout cas de s'opposer à un gouvernement qui ne prend pas en compte la réalité aujourd'hui de ces populations, on le continuera de toute façon, avec ou sans le camp de Nouronfontaine. C'est ça fait partie de l'ADN aussi de Terre d'Errance.
Place maintenant à notre deuxième pause musicale et au groupe Aenea. C'est un power trio instrumental espagnol. Aenea en espagnol pourrait se traduire par « encore ». Notez que c'est un palindrome qui se lit de la même manière de gauche à droite et de droite à gauche. Sur une rythmique basse-batterie solide, le groupe forge un véritable post-rock intergalactique à grand renfort de guitare delay et wah-wah et fait littéralement décoller ses compositions. On écoute donc le groupe Aenea et le morceau « Zéro ». C'est maintenant l'heure de notre reportage sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Tous les reportages de Micro Rebelle peuvent être podcastés et téléchargés dans leur intégralité sur notre site microrebelle.fr à la rubrique Micro Rebelle Reportage. Nous en diffusons aujourd'hui un extrait dans ce Micro Rebelle Hebdo sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Pour cet extrait, nous vous proposons quelques passages de la deuxième partie de notre reportage consacré à l'agriculture paysanne. La semaine dernière, nous vous avions proposé le premier volet de ce grand reportage. Nous poursuivons aujourd'hui, toujours avec Jean-Luc Malpeau, qui est en quelque sorte la mémoire des luttes paysannes en région, et avec d'autres paysannes et paysans qui cherchent à s'installer, qui viennent de s'installer ou qui cherchent à transmettre leur ferme, avec toujours la volonté de résister à l'agriculture industrielle et de défendre au contraire une agriculture humaine, solidaire et durable. Si cet extrait vous a intéressé, n'hésitez pas à écouter l'intégralité du reportage sur le site de notre web radio. Je vous laisse donc sans attendre en apprécier quelques passages et je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien.
Dimitri Tabary, je suis exploitant agricole sur le Valenciennois à Thian, à la ferme du Bayon. Donc on est une petite exploitation qui a été recréée en 2013. Sur 4 hectares et demi, et nous élevons essentiellement des porcs sur paille et des volailles que nous commercialisons uniquement en vente directe à la ferme tous les samedis matins, et nous écoulons la totalité de notre production par ce vecteur, par cette façon de vendre à la ferme.
Et les porcs que tu commercialises sont transformés,
donc les porcs je les emmène le lundi matin à l'abattoir de Valenciennes, qui reste un abattoir de proximité. Hein. Je mets 10 minutes pour aller les emmener. Et ensuite, ils sont découpés par un prestataire hein, qui est sur Cambrai. Donc, même chose, j'essaie de rester au plus proche, en fait. Ce prestataire s'appelle Viandelaine, tout simplement. Hein. Donc, c'est un boucher historique de Cambrai qui a installé son fils dans une activité de découpe. Et je récupère généralement la viande le jeudi. Et je transforme, donc toute la partie charcuterie est faite sur l'exploitation agricole, par contre. Donc saucisses, pâtés, rillettes, têtes pressées, etc., etc. En fonction des saisons aussi.
Alors comment ça se passe cette transformation? Il faut un atelier, il y a des labellisations, il y a des contrôles sanitaires
Alors bien entendu, il y a une déclaration qui est faite au niveau de la DDPP. Hein. Cette déclaration nous permet de transformer sur la ferme, bien entendu, dans un atelier sanitaire qui n'est pas agréé, puisqu'on a une dispense d'agrément, puisqu'on transforme nous, nos propres bêtes en fait, et qu'on ne revend pas à des intermédiaires, hein. Donc on a une dérogation en fait à l'agrément CE, tout simplement, tant qu'on transforme nos bêtes.
Alors peut-être un aspect matériel, hein, on a eu l'occasion d'entendre plusieurs personnes qui étaient installées, et revient d'une manière assez récurrente la question de la dureté du travail d'un côté, et de l'autre côté la question du revenu. Comment ça se passe pour toi?
Alors nous, on a un cas un petit peu particulier, puisqu'on est tous les deux, mon épouse et moi sommes tous les deux double actives. Donc notre activité agricole nous permet de faire face à nos charges de l'exploitation agricole.
Donc tu équilibres quoi?
On équilibre la partie investissement, mais on est incapable de tirer un revenu actuellement de notre exploitation agricole.
Alors, est-ce que ça, ce sera possible? Alors, et à quel prix? En développant?
Voilà, la seule façon de faire, c'est de développer. Hein. Cette année-là, à partir du mois de septembre, on tente une expérience. Mon épouse a pris une année de disponibilité, puisqu'elle est fonctionnaire. Et on va essayer d'ouvrir non plus une matinée par semaine, mais trois demi-journées par semaine pour essayer de doubler l'activité hein, de vente. Et ce qui nous permettrait à ce moment-là, normalement, de dégager un tout petit SMIG, on va dire. Alors après, c'est un SMIG pour quelqu'un qui travaille, qui est salarié. Hein. Si on rapporte ce travail-là au nombre d'heures qu'on passe sur l'exploitation agricole, bien entendu, on n'est pas du tout au taux horaire du SMIG.
Alors, je vais revenir sur cette installation, le fait que tu es double actif, autrement dit que tu n'es pas issu du monde agricole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as dû, à un moment donné, dire... je vais me former. Comment ça s'est passé déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, premièrement? Puis deuxièmement, comment ça s'est passé d'un point de vue acquisition de connaissances, de savoir, de savoir-faire?
Alors moi, j'ai eu une double envie. Hein. Je suis issu, j'ai un grand-père qui était agriculteur. La génération, de mes parents sont tous partis travailler soit à l'usine, soit comme fonctionnaire, très clairement. Donc la ferme est partie à l'agrandissement à ce temps-là. Hein. Et ça m'a toujours fait envie de revenir à la terre, à l'élevage en particulier. Et j'ai un fils qui, depuis qu'il sait parler, veut être agriculteur. Donc clairement, on s'est redonné les moyens pour espérer pouvoir l'installer dans de bonnes conditions. Parce qu'il faut savoir que c'est très compliqué de se réinstaller hors cadre, comme on dit, hein, dans le jargon administratif, puisque il faut se refaire un réseau, il faut retrouver une ferme à reprendre. Là, nous, c'est une ferme qui a été, entre guillemets, à l'abandon pendant pratiquement 4 ans, sur laquelle il y avait 75 hectares. Mais nous, on aurait eu la possibilité de racheter uniquement ce qui n'intéressait personne, hein, globalement, c'est-à-dire les pâtures qui étaient autour de l'exploitation agricole, au centre du village. Donc tout ça, ça engendre aussi des contraintes après techniques, puisque on va vite se retrouver bloqué en termes d'agrandissement, en termes de mise aux normes, etc.
Et donc ça peut poser souci justement pour le développement qu'on évoquait tout à l'heure.
Tout à fait, ouais. Là, clairement, pourtant on est installé depuis 2013, donc ça fait 4 ans, et on est déjà en train de réfléchir à une course à l'agrandissement, mais à trouver des terres, certainement à l'extérieur du village, pour pouvoir développer notre atelier porc, par exemple.
Très bien. Alors, ça nous donne peut-être une photo de l'activité. Maintenant, je voudrais qu'on, peut-être, si ça t'est possible, qu'on prenne le point de vue de ceux qui achètent. Qui est-ce qui vient qui est-ce qui bénéficie des productions de la ferme?
On a été très étonnés au départ quand on a démarré les premières ventes. Nous, on a démarré au tout début uniquement en colis. Hein, donc, nos clients, on peut les appeler comme ça, hein, étaient essentiellement des familles avec un peu de monde dans la famille, donc des grosses familles entre guillemets qui achetaient du colis. Et on a développé en parallèle, parce qu'il y avait une demande, une activité de vente au détail. Et là, en fait, on a tout un panel qui va de jeunes qui ont 20 ans jusqu'à des retraités qui viennent chercher leur viande toutes les semaines. Et donc c'est assez intéressant. Et on a vraiment une pyramide, on n'a pas une pyramide justement, on a un ensemble de personnes qui couvrent toutes les générations. Et il y a même des parents avec les enfants, et les enfants sont vecteurs aussi dans l'acte d'achat. Et c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a une vraie éducation qui peut se refaire par ce biais-là, parce que les gens sont en face à face avec nous, éleveurs. On peut leur expliquer comment on élève, pourquoi on fait ça, pourquoi on n'a pas des gros volumes, pourquoi toutes les semaines on ne peut pas avoir un filet mignon, parce qu'il n'y en a que deux sur un porc et qu'on vend qu'un porc par semaine. Et tout ça, je pense que c'est une vraie éducation à refaire vis-à-vis des jeunes, notamment.
Et apparemment, ça marche. Autrement dit, on a des consommateurs, enfin des clients, comme tu dis, qui ne vont pas en grande surface.
Ah, bien sûr, du moins, les clients que l'on a, alors on doit avoir un fichier, entre guillemets. On a plus de 500 clients différents qui viennent à la ferme tout au long de l'année et qui sont des personnes qui nous visitent au minimum 2-3 fois par mois, du moins. Donc c'est vraiment une nouvelle habitude de consommation. Et ils font le détour exprès pour venir acheter leur porc et leur volaille à la ferme du Bagnon. Ils ne vont pas ailleurs.
Et ce qui les motive, c'est... Bon, j'imagine que c'est que tu n'es pas moins cher que la grande distribution, tu es peut-être même un peu plus cher, enfin je le présume. Donc ce qui les motive, c'est la qualité, c'est la relation, c'est une conception de la façon de se nourrir.
Je pense que ce qui les motive le plus, c'est la transparence déjà. Moi, je suis capable, notamment on fait des journées portes ouvertes, même à n'importe quel moment, d'aller montrer mes bêtes, de leur expliquer comment je les alimente, comment je les transforme. Qu'est-ce que c'est que le... Pourquoi moi, éleveur, j'emmène mes bêtes moi-même à l'abattoir aussi? Parce que ça, c'est important aussi. Derrière, il n'y a pas de stress. Ça fait partie aussi de ce qu'ils recherchent en venant dans une vente directe comme ça. Ensuite, en termes de prix, nous, on a pris comme stratégie de dire, nous, on n'a pas d'intermédiaire, donc on peut se permettre de vendre globalement au prix de la grande surface, alors sauf quand ils font des promotions à 1 euro le kilo le porc. Hein. Mais globalement, on est sur des prix qui se valent avec la grande surface. La seule chose, c'est qu'on n'a pas d'intermédiaire. Donc je veux dire que la marge qui est faite entre les deux, elle est partagée entre nous et l'acheteur. Tout simplement.
Alors peut-être une dernière question sur l'activité en tant que telle. La solidarité entre paysans, la solidarité dans, dans le monde agricole. Tu la connais, c'est quoi? C'est des réseaux? Comment ça se passe?
Alors, au niveau de l'agriculture paysanne, comme je l'appelle, hein, on a de vrais réseaux qui nous permettent de nous entraider, de nous donner des pistes, de nous motiver aussi, parce qu'il faut savoir que quand on est hors cadre, quand on est tout petit vis-à-vis de nos voisins agriculteurs du modèle industriel, on va dire, c'est clair que on n'a pas beaucoup d'aide à aller chercher ces jeux. Alors après, il y a des exceptions, comme partout. Mais on a un vrai réseau. Moi, je sais que, par exemple, c'est l'association Avenir qui nous a permis de franchir le pas de l'installation, puisque les institutions classiques, à savoir la chambre, à savoir le syndicat, ne me conseillaient pas de m'installer, me décourageaient même très fortement de m'installer. Et en fait, je suis tombé sur une association qui m'a permis, en fait, de trouver des personnes qui, comme moi, hors cadre, s'étaient installées et réussissaient à vivre correctement, du moins avec... Alors, quand on dit correctement, c'est pas toujours correctement au niveau financier, mais c'est dans la philosophie de s'installer sur des petites exploitations. Et je pense que c'est vraiment important. Derrière, je me suis intégré aussi, grâce à eux, dans la Confédération paysanne, qui revendique plutôt, on va dire, à l'installation de plusieurs agriculteurs sur des petites exploitations agricoles plutôt que de favoriser l'agrandissement.
Alors donc, une installation finalement assez récente, en même temps beaucoup de projets de se développer, tu l'as dit. Aujourd'hui, quelle est ta vision du monde agricole, du monde paysan? Tu évoquais des difficultés, tu évoquais beaucoup de travail, tu évoquais des revenus qui demandent à grandir. Tu es optimiste, tu es pessimiste?
Alors moi, je suis très optimiste là-dessus, parce que je pense que, on le voit bien actuellement avec la crise agricole qu'il y a, quand je côtoie les paysans qui sont installés autour de moi, tous continuent en fait à avoir une vie qui correspond à leurs attentes. Je ne les entends pas se plaindre plus qu'un autre temps. Économiquement, ce sont des petites structures qui assument leurs charges, contrairement à des grosses structures qui, on le voit bien actuellement, peut-être encore cette année, si on a une deuxième crise dans les céréales, si la crise dans la production de lait continue, ces grosses structures-là ont quand même beaucoup de difficultés à assumer leurs charges financières. Si l'État, si l'Europe ne vient pas à leur secours, à mon avis, c'est des modèles qui, économiquement, auront du mal à sortir de cette crise-là. Alors que toutes les petites fermes qu'on a autour de nous passent très bien cette crise-là, puisque nos clients, ce sont, des gens de proximité. On ne vend pas des grands groupes, nous.
Ce micro rebelle hebdo se termine sur micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous, et à la semaine prochaine.